Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la France est championne de la consommation de médicaments, mais pas encore championne de la consommation de médicaments génériques. En progression, pourrions-nous dire. En 2008, un médicament vendu sur 5 était un générique, représentant 11% des ventes, encore peu comparé aux 20% observés en Allemagne et 26% au Royaume-Uni. Mais force est de constater que le développement de la prise de médicaments génériques en France fait faire des économies à la sécurité sociale, tout d'abord parce que les génériques coûtent 40% moins cher que les médicaments de marque, en moyenne, mais aussi parce que les laboratoires pharmaceutiques baissent le prix de leurs médicaments princeps, ces médicaments dont le brevet est tombé dans le domaine public. Et puis, entre certainement en jeu également le développement de l'automédication et le déremboursement de médicaments au service médical rendu insuffisant. Bref, dans cette émission Éclairage, je vous propose de faire le point sur la place des génériques prescrits en France, de la fabrication du médicament à sa délivrance, ceci à partir de deux éléments. Le premier, le rapport du professeur Menkès, membre de l'Académie nationale de médecine, un rapport sorti en février 2012 portant sur la prescription des génériques. Et puis également, donc deuxième élément, l'avis de l'Académie de pharmacie sorti en juin 2011 sur les matières premières pharmaceutiques dans le contexte de la mondialisation. Et nous verrons que ces deux rapports sont très liés. Et pour en parler avec nous, Joël Menkès est avec nous. Monsieur, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Eh bien, c'est nous qui vous remercions d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes ancien chef de service en rhumatologie à l'hôpital Cochin, professeur émérite à l'Université Paris 5, membre de l'Académie nationale de pharmacie, comme j'ai pu le dire. Professeur Menkès, on va très rapidement démarrer sur ces points qui nous intéressent, sur ces questions de médicaments génériques. Est-ce qu'ils peuvent remplacer tous les médicaments princeps? Et puis la seconde partie de cette émission qui portera plus sur la question de l'industrie du médicament générique. Qui sont les génériqueurs? D'ailleurs, un mot un peu particulier, génériqueurs, les fabricants de médicaments génériques. Et où ces médicaments sont-ils fabriqués? Donc, nous en reparlerons. Mais auparavant, professeur Menkès, je viens de vous présenter comme étant rhumatologue. Pourquoi vous êtes saisi de cette question des médicaments génériques?
Le rhumatologue est un thérapeute et qui est très habitué aux médicaments de type anti-inflammatoire. Et j'ai été intéressé par le problème des génériques auxquels j'étais confronté lors de périodes de travail au Caire, en Égypte, et où j'ai pu voir que certains médicaments fabriqués sur place étaient efficaces et d'autres manquaient d'efficacité. Alors ça m'avait un peu interpellé, car les personnes préféraient faire les frais difficilement de médicaments importés plutôt que d'acheter le médicament copié sur place.
Alors voilà qui va peut-être pas forcément nous rassurer sur les médicaments génériques. Voilà un préambule particulier puisque vous nous dites que ces médicaments copiés, ces génériques en quelque sorte, n'étaient pas forcément valables sur les patients. On va démarrer tout doucement et puis on va arriver justement à ces questions qui font l'objet de controverses, à savoir est-ce que tous les médicaments génériques peuvent remplacer les médicaments princeps? Comment un générique est-il mis sur le marché? Est-ce qu'il est testé? Est-ce qu'il bénéficie d'une autorité de mise sur le marché? En d'autres termes, une AMM?
Oui, le médicament a une autorisation de mise sur le marché, le médicament générique, mais qui est particulière. Le fabricant doit simplement démontrer qu'il y a une équivalence entre l'absorption du médicament générique et l'absorption du médicament princeps, du médicament qui a été copié. Il n'y a pas à faire la preuve d'une efficacité identique. On pense que cette efficacité va de soi, puisque c'est le même principe pharmaceutique qui se trouve dans l'un et dans l'autre.
Alors, s'agit-il de la même composition entre un médicament générique et puis le médicament de marque, qui est donc le médicament princeps?
Non, parce qu'il peut y avoir quelques modifications dans la fabrication. Il peut y avoir des modifications dans les excipients utilisés qui peuvent entraîner des réactions particulières chez le patient. Donc, c'est pas une copie conforme.
Mais dont les résultats sont similaires aux médicaments princeps.
Oui, absolument.
En théorie?
En théorie et en pratique, dans la plupart des cas.
Dans la plupart des cas.
Dans la plupart des cas, le résultat est tout à fait similaire.
Alors, bien sûr, il n'est pas question de faire peur sur les médicaments génériques, puisque maintenant, depuis quelques temps, depuis un an, les médicaments suscitent parfois même l'angoisse entre cette liste des 70 médicaments mis sous surveillance, l'affaire du Mediator. Mais au regard de votre rapport, professeur Menkès, il y a plusieurs choses que vous avez remarquées et que vous listez dans votre rapport. C'est tout d'abord que pour certaines maladies infectieuses, il est constaté, mais vous allez pouvoir nous en parler en détail, que les médicaments génériques n'apportent pas les mêmes résultats que les médicaments princeps. Est-ce que vous pourriez nous en dire beaucoup plus sur cette question-là?
Oui, c'est quelque chose qui n'est pas d'une importance fondamentale pour les médicaments anti-infectieux habituels. Mais dans des infections très sévères, notamment lorsqu'on utilise des génériques injectables, il est apparu qu'il pouvait y avoir des différences entre les différents génériques disponibles et le produit princeps. Différence d'efficacité.
Alors comment cela est-il possible, puisque vous venez de nous dire que normalement un médicament générique, dans son principe actif, est le même qu'un médicament princeps?
Ça peut tenir aux conditions de fabrication et ça peut tenir aux excipients qui sont utilisés, qui peuvent varier.
Donc le rôle des excipients est important?
Le rôle de l'excipient peut être important. Parce que l'industriel qui fabrique le générique, il dispose obligatoirement, de par la loi, du dossier d'autorisation de mise sur le marché. Donc l'industriel qui a inventé et fabriqué le médicament le premier donne son dossier. Mais il n'est pas tenu à révéler ses secrets, entre guillemets, ses secrets de fabrication. Et c'est au fabricant du générique de trouver le moyen de faire quelque chose qui se rapproche le plus possible du médicament princeps.
Alors, un autre exemple, alors c'est un cas bien particulier. Il s'agit, et donc on le lit également dans votre rapport, qu'il y a l'exemple des médicaments à marge thérapeutique étroite. Alors, je précise tout de suite pour nos auditeurs que les marges thérapeutiques étroites, ça signifie que toute variation de concentration du principe actif dans l'organisme, même légère, peut entraîner des effets indésirables, voire graves. Et dans ce cas-là, dans ce cas de médicaments à marge thérapeutique étroite, il semble qu'on ne recommande pas spécialement le remplacement des médicaments princeps par des médicaments génériques.
Alors, on ne refuse pas ce remplacement, mais on dit de faire attention.
Il y a une mise en garde.
Il y a une mise en garde. De toute façon, le médicament générique peut avoir une variation de concentration de 5 à 7%. C'est admis. Ce n'est pas obligatoirement 100%. Il peut y avoir un petit débord en moins ou en plus.
Mais qui pourrait être gênante dans ce cas de médicaments à marge thérapeutique étroite.
Donc il y a eu beaucoup de discussions pour les malades atteints d'épilepsie, discussions auxquelles ont participé les associations de malades, et il a été dit à un moment donné que ces produits génériques n'étaient pas du tout adaptés au traitement de l'épilepsie. Puis des études ont été faites, des analyses sur des séries plus importantes réalisées, et il a été montré qu'il n'y a pas de différence entre les produits princeps et les produits génériques en réalité. Et un certain nombre de neurologues ont pensé que c'était le fait que le malade ou la famille du malade était inquiète par le changement de médicaments auxquels ils étaient habitués, que cette inquiétude se traduisait par quelques crises supplémentaires.
Vous voulez parler d'un effet purement psychosomatique?
D'un effet psychologique, oui. Tout à fait.
Psychologique.
Et qu'en réalité, on peut faire le remplacement si on le fait très progressivement et avec prudence.
Mais j'imagine que pour ces médicaments, comme vous le dites, des antiépileptiques ou encore les anticoagulants ou les antidiabétiques, c'est donc à faire attention dans l'utilisation de ces génériques.
Voilà. Également, en endocrinologie, les médicaments destinés à traiter les atteintes thyroïdiennes, là aussi, on peut facilement décompenser le malade en passant d'un médicament princeps, un médicament générique.
Alors je vous repose la question, professeur Menkès, tous les médicaments génériques peuvent-ils remplacer les médicaments princeps au regard de ce que vous venez de nous dire?
Oui, théoriquement, tous ces médicaments peuvent remplacer le médicament princeps, mais il faut tenir compte de la possibilité d'une intolérance liée à une allergie du fait d'un excipient différent, d'une particularité du malade qui fera qu'il ne supporte pas le médicament générique dans sa forme différente du médicament princeps. Donc finalement, on se préoccupe de la réaction du malade par rapport au médicament à partir du moment où il n'y a pas a priori de raison de penser qu'il y aura une intolérance. Par exemple, si quelqu'un a une intolérance au lactose et que dans l'excipient il y a du lactose, on peut imaginer qu'il ne supporte pas bien. S'il y a une intolérance à certains produits comme des cacahuètes et qu'il y a de l'huile d'arachide, on peut imaginer qu'il y aura une possibilité d'intolérance.
Mais je me fais l'avocat du diable, professeur Menkès, mais lorsque vous allez à la pharmacie avec votre ordonnance, avec une liste de médicaments princeps, parce que votre médecin généraliste ou médecin tout court n'est pas forcément l'équivalent du générique, lorsque ce patient va en pharmacie, le pharmacien ne vous demande pas auparavant, avant de le remplacer par un médicament générique, ne vous demande pas si vous êtes intolérant au lactose, à l'arachide ou à d'autres excipients.
Oui, c'est un problème, c'est au médecin de signaler qu'il ne souhaite pas qu'il y ait un remplacement du médicament spécifique par un médicament générique. S'il y a justement une raison de déclencher des réactions d'intolérance.
Encore une fois, il n'est pas question de faire le holà sur les médicaments génériques, pas du tout. Mais c'est pour vraiment comprendre ces questions qui sont soulevées actuellement sur la prescription des médicaments génériques. Est-ce qu'une fois que le médicament générique est mis sur le marché, donc il a bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché, comme vous nous avez dit, mais de manière spécifique pour les génériques, oui. Est-ce qu'une fois qu'il est mis sur le marché, il y a des contrôles pour vérifier que le médicament vendu est bien conforme ou pas ?
Les contrôles sont faits a priori, plus quelques contrôles, effectivement. Par exemple, l'agence américaine a fait un contrôle sur plusieurs milliers de génériques et trouvé qu'il y avait des anomalies dans moins de 10% des cas. L'agence française qui s'occupe des médicaments a également publié des contrôles sur près de 2000 produits. Et là aussi, c'était autour de 7 à 9%.
C'est beaucoup, non, au regard de...
Non, c'était d'accord, c'est pas une différent mesure qui... des médicaments princeps, où il pouvait y avoir quelques anomalies, mais pas dangereuses, bien sûr, mais quelques anomalies qui pouvaient expliquer des différences d'activité. Aucun de ces médicaments n'est dangereux. Ce sont des problèmes d'efficacité. Ils peuvent être un peu moins efficaces que d'autres, en dehors des réactions d'allergie, d'intolérance, qui sont quand même assez rares.
Pourtant, dans votre rapport, vous signalez que certains médicaments ont eu des mises en garde. Enfin, en l'occurrence, justement, des organismes, alors je ne sais pas si c'est l'AFSAPS ou si ce sont des organismes internationaux ou la FDA, oui. Qui ont retiré certains médicaments.
Oui, parce que le produit n'était pas conforme à ce qu'il aurait dû être, bien sûr.
Donc ça veut dire que certaines entreprises, encore une fois, il n'est pas question de dire que toutes les entreprises pharmaceutiques sont comme ça, mais ça signifie qu'il y a une certaine prise de liberté entre le moment où il y a l'autorisation de mise sur le marché et puis la fabrication et la distribution du médicament.
Absolument, parce que le médicament est fabriqué maintenant assez loin, en général. Jusqu'à présent, il y avait 4 ou 5 intermédiaires. Et maintenant, il y a jusqu'à une vingtaine d'intermédiaires. Entre le départ du médicament et son retour sous forme de générique. Donc, les intermédiaires pour le produit lui-même, le médicament, et puis pour les excipients, et puis pour la fabrication, pour la présentation, etc. Donc.
Alors, si vous voulez bien, professeur Menkès, on va aborder ce point qui est donc plus l'économie du médicament, et notamment l'économie du médicament générique. Dans une seconde partie, je vous propose de marquer une pause, si vous voulez bien, on se retrouve dans quelques instants. Suite de notre émission éclairage en compagnie du professeur Menkès, avec qui nous parlons de la prescription des médicaments génériques. Et dans cette deuxième partie, professeur Menkès, on va plus aborder la question industrielle, l'industrie pharmaceutique, la fabrication de ces médicaments génériques. On était parti il y a très peu de temps avec vous à l'extérieur des frontières françaises, puisque une partie des principes actifs des médicaments génériques ne sont pas fabriqués en France, en ce qui concerne notre sujet à nous, ils sont fabriqués en Asie, en Chine et en Inde notamment.
Tout à fait. Et actuellement, l'Inde fabrique de plus en plus de produits pharmaceutiques. Donc ça pose des problèmes de contrôle qui sont de plus en plus difficiles et qui sont très importants si on veut redonner une pleine confiance aux malades, aux médecins, envers les produits génériques. Je crois que ces produits génériques sont indispensables parce que les produits pharmaceutiques sont de plus en plus coûteux. Ceux qui proviennent de l'industrie biologique ont un prix très élevé et il faut pouvoir compenser ces dépenses en diminuant des dépenses sur des produits que l'on peut fabriquer à moindre coût. Mais pour le consommateur, pour le malade, pour le patient, il faut qu'il soit sûr de la sécurité et de l'efficacité complète des produits qu'il prend.
Alors la sécurité, parlons-en. Vous avez donné un exemple très concret dans votre rapport pour le médicament générique du, on va donner le nom, hein, du Plavix, qui est donc un médicament donné dans le cas de thrombose, oui. Enfin, en tout cas pour prévenir les thromboses. Ce générique est donc fabriqué en Inde et les défauts de fabrication constatés ont fait proposer le retrait des lots de médicaments contenant le générique incriminé. Voilà un exemple de quelque chose fabriqué à l'extérieur et qui finalement n'est pas conforme aux normes.
Alors ça, je crois que c'est un exemple rassurant, parce que ça montre qu'il y a eu un contrôle qui a été fait à la base et qui a permis de noter un aspect défectueux dans la fabrication du produit.
Mais ça veut dire que certaines industries pharmaceutiques, de par leur délocalisation et sous-traitance à plusieurs niveaux, hein, vous le disiez avant cette pause, ça veut dire que ben, parfois, ils passent un peu au-delà des réglementations. Non, c'est pas ce que ça veut dire.
C'est un peu dans la nature humaine d'essayer d'échapper aux réglementations et de tirer un maximum de profit. Donc, dans cette industrie, c'est assez tentant et facile de le faire. Mais ça peut aller jusqu'à la falsification complète des médicaments, mais ça reste quand même exceptionnel.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je parlais de l'Inde et de la Chine, mais vous me le disiez aussi pendant cette pause, il n'y a pas que ces pays-là, il y a également le Canada, je crois, qui, il y a quelque temps, a été montré du doigt. Donc, il n'y a pas que ces pays en voie de développement.
Il y a eu effectivement au Canada un problème avec un médicament générique qui n'offrait pas les garanties suffisantes. Et ce qui montre que même dans des pays dits développés, on peut avoir des problèmes si les contrôles ne sont pas bien faits. Ce qui est important, c'est d'insister sur le développement de contrôles dans ces pays lointains.
Alors justement, qui fait ces contrôles? Par exemple, en France, est-ce que c'est l'AFSAPS qui se déplace pour aller justement en Chine? J'ai lu que, alors dans l'avis de l'Académie nationale de pharmacie, 40 à 50% de la production des principes actifs, c'est-à-dire donc les molécules qui se trouvent dans ces médicaments génériques, 40 à 50% de la production des principes actifs génériques sont fabriqués en Chine. Alors est-ce que l'AFSAPS se déplace dans ces cas-là en Chine pour aller constater la bonne conception de ces médicaments?
Il est prévu réglementairement des inspections qui vont jusqu'au déplacement des inspecteurs dans les pays qui fabriquent. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a maintenant tellement de sous-traitants qu'il faut obligatoirement intéresser les pays fabricants au contrôle des produits médicamenteux.
Il y a combien de sous-traitants, par exemple, pour un médicament, pour se donner une idée?
On dit maintenant que ça peut aller jusqu'à 20 sous-traitants, chacun demandant à l'autre un travail complémentaire.
Oui, donc effectivement, pour lister et pister la traçabilité,
ça
devient de plus en plus
très
difficile.
Difficile et très, très long.
Donc, effectivement, comme je vous le disais, 40 à 50% de la production des principes actifs génériques fabriqués en Chine pour le marché européen. Est-ce que donc l'AFSAPS se déplace? Donc, vous me dites oui en partie, mais il faudrait développer encore un peu plus ces instances de régulation et de contrôle.
Sur place.
Développer sur le plan européen, ou peut-être que ça existe déjà?
Non, développer sur place et puis s'assurer que les contrôles sont faits à l'entrée dans le pays des médicaments princeps ou des génériques. Il y a des contrôles, mais il faut qu'ils soient développés.
Et alors,
ils ne sont peut-être pas totalement suffisants.
Et en cas de non-conformité, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des amendes? Ce sont juste des mises en garde? Ou est-ce qu'il y a réellement des sanctions en cas de faute?
Je ne crois pas qu'il y ait de sanctions, donc c'est des mises en garde. Le simple fait de refuser le produit est déjà une sanction, puisque c'est une sanction économique.
Est-ce que c'est suffisant, à votre avis?
Il semble que ça soit quand même assez suffisant, oui. C'est un bon impact.
Alors, dans la conclusion de votre rapport, vous dites ceci. Alors, je vais lire le dernier paragraphe de votre conclusion. La production délocalisée, avec une multiplication de sous-traitants, on en parlait à l'instant, rend les contrôles sur place très difficiles. Les vérifications pharmaceutiques sur le produit fini sont alors d'autant plus importantes que le marché des faux médicaments se développe considérablement, notamment en Chine. Le bénéfice retiré par les délinquants sur un an était identique à celui du trafic des drogues, mais à moindre risque. Alors, on aborde un autre point, là, cette fois-ci, puisqu'on parlait des génériques. Maintenant, vous parlez de contrefaçon. Pardonnez-moi ma question qui va vous faire bondir. Qu'est-ce qui différencie un médicament contrefait d'un médicament générique?
Ah oui, là, ça me fait bondir, effectivement. Ça n'a strictement rien à voir. Le générique, non, je crois qu'il ne faut pas voir ça comme le diable. Le générique, c'est un produit qui est similaire au médicament princeps, mais qui peut varier un tout petit peu. Et ce coefficient de variation, habituellement, est négligeable. Donc, on peut prendre du générique, et moi, je prends un générique tous les jours, et je ne suis pas encore mort. Et l'efficacité était la même que celle du produit Princeps que je prenais et que mon pharmacien, sans rien me demander, a remplacé par un générique. L'utilisation de ces génériques est indispensable pour diminuer le coût de la santé. Il est indispensable aussi aux pays où il n'y a pas de sécurité sociale pour tout le monde. Ça permet l'accès aux soins de certains. Ça a permis l'accès aux soins en Afrique pour le sida, par exemple. Donc c'est important d'avoir des génériques de nombreux médicaments. Il faut tenir compte de la possibilité, qui n'est pas fréquente, mais qui peut se rencontrer, d'une moindre efficacité dans certains cas. Vous aviez parlé tout à l'heure des produits à marge thérapeutique étroite. Si un patient qui est sous hormones est remplacé par un générique et qu'il vous dit « je suis moins bien, je me sens complètement avachi, insuffisance thyroïdienne, je suis de nouveau frileux, etc. etc. », il faut penser que ce générique n'est pas aussi efficace que le médicament Princeps. Donc il y a là un travail de médecin à faire en tenant compte des besoins du patient.
Et alors, donc du coup, vous ne m'avez pas répondu sur les contrefaçons.
Alors, les contrefaçons. Donc, le générique, donc c'est quelque chose qui se rapproche tout à fait du médicament. Oui. Il ne faut pas avoir peur du générique. La contrefaçon, c'est tout à fait autre chose.
Mais comment...
Là, il s'agit de prendre une boîte de médicaments fabriquée par la même équipe que celle qui fabrique le produit générique ou le produit Princeps. Et dans cette boîte, vous mettez des gélules de n'importe quoi et vous présentez sur le marché en disant, ben voilà, vous avez un antibiotique ou du Viagra ou ce que vous voulez.
Alors, je vais poser ma question différemment. Alors, peut-être que déjà la contrefaçon n'arrive pas forcément sur le territoire français. Peut-être qu'elle est sur le pays qui fabrique les médicaments qui sont donc délocalisés, donc la Chine ou l'Inde, j'imagine, en grande partie. Mais comment le public fait-il la différence entre une boîte de médicaments génériques et une boîte de contrefaçon, une boîte contrefaite ?
Il ne peut pas. Il ne peut pas, si ce n'est que ces produits sont achetés soit sur Internet, soit ils sont envoyés dans des pays en voie de développement, comme en Afrique en particulier, Afrique noire, dans des populations qui ne sont pas très éduquées et qui croient beaucoup aux médicaments. Donc ils sont prêts à payer cher pour avoir un produit qui apparemment, pensent-ils, va les guérir.
Alors, un autre point dans votre conclusion, on va plus revenir sur les pays développés. Vous dites que cette recherche du moindre coût, c'est-à-dire le coût de fabrication du médicament générique, et les critiques des médicaments portées par les médias, alors j'imagine que là, vous nous montrez du doigt pour ce qui est de l'affaire du Mediator et des autres médicaments qui ont été retirés du marché. Cette recherche du moindre coût et les critiques des médicaments portés par les médias contribuent aux difficultés économiques des firmes pharmaceutiques nationales avec délocalisation des unités de production, on en a parlé à l'instant. Elle explique les pénuries épisodiques de médicaments qui sont acheminés en priorité vers les pays commercialement les plus rentables. Là aussi, j'aimerais quand même qu'on en parle en détail cet été. Alors vous me direz, la France est un pays développé, donc peut-être qu'on n'a pas été tellement confronté à la pénurie de médicaments vis-à-vis d'autres pays. Mais à l'été 2011, et on a observé aussi en France une pénurie de certains médicaments. Est-ce que justement, c'était le symptôme de ce phénomène de flux tendu au niveau de la fabrication et la commercialisation de certains médicaments et fabrication à l'étranger?
Oui, ça devient tellement compliqué avec une infinité de sous-traitants que tout à coup, la chaîne se rompt, on ne sait pas pourquoi, ou bien parce qu'ils ont fabriqué des produits avec un défaut et qu'ils ont été contrôlés sur place, donc on a arrêté la production. Et à ce moment-là, comme c'est en flux tendu, comme vous le dites, tout s'arrête. Et puis aussi le fait que à l'échelon mondial, les produits vont être dirigés plutôt vers les pays où le prix est plus élevé que les pays où le prix est plus bas, comme la France. Donc là, ça rentre en ligne de compte.
Alors, venons-en justement à vos recommandations, qui sont d'ailleurs similaires à celles de l'Académie de pharmacie. Enfin, vous avez des recommandations qui sont communes. Justement, peut-être pour limiter cet effet de pénurie de certains médicaments, je crois que vous recommandez la fabrication de certains principes actifs sur le sol français, ne pas forcément tout délocaliser.
Exactement, si on n'a plus du tout de possibilité de fabriquer des produits en France, c'est très ennuyeux, parce qu'on devient totalement dépendant, et au moindre incident dans cette chaîne éloignée de fabrication, il y a des pénuries de médicaments qui apparaissent et qui peuvent être quand même très embêtantes.
Alors quels seraient justement ces médicaments indispensables, enfin ces principes actifs indispensables? Comment fait-on la liste de ce qui pourrait être fabriqué sur le territoire français et ce qui n'aurait pas besoin d'être fabriqué sur le territoire français?
Il y a des antibiotiques, il y a des médicaments qui agissent de façon symptomatique, il y a des médicaments de survie. Donc un visée endocrinienne, un visée anti-infectieuse, les anticancéreux, ils posent de gros problèmes. Même aux États-Unis, où la situation est souvent en flux tendu, la FDA, là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de rapports disant qu'ils ont été obligés d'interrompre des traitements par anticancéreux de première ou deuxième génération, pas les nouvelles molécules. Là, il n'y a pas d'interruption, mais les médicaments classiques et traditionnels, de temps en temps, disparaissent du marché. Et ça pose d'énormes problèmes pour des personnes qui ont des cancers évolués et stabilisés par des produits qui existent depuis longtemps et qui brusquement se retrouvent sans traitement.
Alors justement, vous nous le disiez, si les industries pharmaceutiques délocalisent, c'est aussi pour minimiser les coûts. Alors si on veut que ces entreprises pharmaceutiques relocalisent sur le territoire français, par exemple, ça veut dire qu'il faut des mesures incitatives financières.
Il faut leur permettre de faire des bénéfices, de façon à pouvoir investir, investir dans la recherche et investir dans la fabrication. Si on les taxe au maximum, si leurs bénéfices tendent vers zéro, il est certain que ça aboutit au licenciement et à la délocalisation. Il y a aussi le fait de, tout à l'heure, nous avons évoqué la responsabilité des médias dans ces problèmes de médicaments. La mauvaise image qui a été donnée des médicaments, des médecins et des fabricants de médicaments retentit par exemple sur la vente des produits médicamenteux français à l'étranger, l'exportation. Quand on va à l'étranger, quand on a passé des années à aller faire des conférences à droite et à gauche, notamment personnellement beaucoup en Amérique du Sud, il est certain que les médecins achètent des produits français dans la mesure où ils ont confiance dans la médecine française. Et si ils lisent que les médicaments ont des effets secondaires cachés ou que leur efficacité est douteuse, ils n'ont pas du tout envie de prescrire ou d'installer des usines qui fabriquent des produits sous licence française.
Mais je vous retourne le problème, professeur Menkès. Est-ce que, justement, les responsables dans l'histoire, ce ne sont pas ces industries pharmaceutiques qui, à un moment donné, malheureusement, ont commis une erreur, voilà, et qui, effectivement, voilà, il y a la baisse de 10% de produits pharmaceutiques exportés, une baisse de 10% de produits français pharmaceutiques exportés qui en est la conséquence, mais j'ai envie de dire que peut-être ils ont aussi une part de responsabilité, non?
Sûrement, oui, non, mais c'est... le problème n'a pas été bien géré, c'est sûr. La responsabilité primaire, et ensuite il y a des responsabilités secondaires.
Dans les autres recommandations, on va avancer puisqu'on arrive quand même à la fin de notre émission, il y a bien sûr la question de la pédagogie, puisque pour vous, ou en tout cas pour les personnes qui ont validé votre rapport avec vous, eh bien il y a encore tout un pan à établir avec les patients qui ne connaissent pas forcément les génériques, et puis également faire un peu de pédagogie auprès des médecins généralistes qui seraient encore, pour une part, peut-être une faible part, mais pour une part, assez réticents au générique.
La France est particulière par sa réticence au générique, depuis toujours. On est parti de 2% de générique pour arriver maintenant à 23-24% de prescriptions en générique. En France, on a tendance à douter un petit peu de ce que nous racontent les autorités. On est un peu réticent. Alors, la pédagogie, oui, elle s'applique. Il faut expliquer aux patients ce que sont les génériques. Bien souvent, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas très bien ce que c'est. Ils pensent que ce sont des médicaments meilleur marché. Et ils comparent ça aux produits des grandes surfaces moins chers que les produits de marque. Donc, il faut leur expliquer que c'est équivalent et que l'efficacité sera la même. Alors, les médecins, je crois que c'est un petit peu la même chose. Il faut leur laisser un petit espace de liberté. Leur dire que si vous avez en face de vous une personne dont vous soupçonnez une intolérance parce qu'elle est allergique à tout et que vous avez vu que l'excipient, certaines conditions de fabrication sont telles qu'il peut y avoir des problèmes ou bien qu'elle est complètement transformée par quelques gouttes de thyroxine d'une marque X, il ne faut pas la changer contre un autre extrait thyroïdien qui sera très difficile à doser de façon précise chez le patient. Donc une liberté de refuser le générique pour un malade. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter les ordonnances où systématiquement il y a NS à toutes les prescriptions. Ça, c'est pas acceptable.
NS qui veut dire ?
Non substituable.
Non substituable, donc pas de médicament générique.
Le grand sésame qui ferme la porte au générique. S'il n'y a pas NS, vous ne pouvez pas refuser le générique, mais vous pouvez l'acheter en payant de votre poche le supplément.
On va terminer, alors très rapidement, donc on en a parlé longuement au cours de cette émission, appliquer formellement les dispositions réglementaires de contrôle de qualité. Alors, lorsque l'on lit cette recommandation, ça sous-entend que peut-être actuellement, ce n'est pas le cas ou pas suffisamment le cas.
C'est le cas, mais il faut que ce soit encore mieux fait dans la mesure où ça devient de plus en plus lointain. La fabrication est lointaine, elle s'étend à certains pays asiatiques comme l'Indonésie, l'Amérique du Sud, non seulement le Brésil, mais des autres pays d'Amérique du Sud. Donc, il faut que le contrôle soit bien fait, étant donné que les contrôleurs ne vont pas partir de l'Europe ou de Paris pour aller à Rio vérifier. Il faudrait bien, je pense, surtout au mois de février, à Rio vérifier les génériques. Mais enfin, il faut déjà qu'au départ, ils fassent ce contrôle de façon correcte, et ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Et même aux Indes, actuellement, ils ont des équipes bien formées qui laissent penser que plus le temps va passer, et plus le contrôle sera satisfaisant dans ces pays.
Et alors, dernier point qui va avec, appliquer les règles de la pharmacovigilance et de la pharmacoépidémiologie aux médicaments génériques, de la même façon qu'aux médicaments référents, puisqu'actuellement ce n'est pas le cas.
Oui, donc il faut effectivement relever tous les effets secondaires possibles, s'il n'est pas toujours réalisé, peut-être sans dire exactement de qui, quoi, mais simplement donner l'effet secondaire et la dénomination commune internationale du produit pour qu'on sache ce qui donne des effets secondaires et qu'on puisse prescrire sans aucune inquiétude.
Eh bien, je vous remercie, professeur Menkes. Je rappelle le titre de votre rapport, La place des génériques dans la prescription. Un rapport sorti au mois de février 2012. Et puis, au cours de cette émission, nous avons pu en parler à plusieurs moments. Si l'avis de l'Académie nationale de pharmacie, matière première pharmaceutique, mondialisation, on en a parlé, et santé publique. Un avis qui est sorti, lui, un peu plus tôt, en juin 2011. Merci à vous d'être venu nous donner tous ces détails. J'espère que nos auditeurs seront plus éclairés sur la question, mais pas inquiétés sur la place des génériques et sur les effets des médicaments génériques par rapport à leurs voisins princeps. Merci à vous.
Merci à vous de m'avoir invité. Et je pense que vos auditeurs n'ont pas à s'inquiéter. Il n'y a pas de danger à prendre des génériques, surtout si on est bien surveillé.